Tandis que le gosse dit demain parce que son augmentation implique justement quelque chose qui est d'ordre quantitatif. Tandis que la charité n'implique rien de quantitatif, c'est d'une intériorité toujours plus grande. Et c'est cette intériorité toujours plus grande qui est le propre de la charité. Alors, troisième objection, ce qui augmente est en mouvement d'évolution. Donc la charité doit évoluer. Donc, ce qui augmente essentiellement évolue essentiellement, ce qui veut dire se corrompt ou bien est engendré de nouveau. Donc, pour que la charité augmente essentiellement, il faudrait qu'elle disparaisse et qu'elle revive de nouveau. Ce qui n'est guère admissible. Pour augmenter essentiellement, il faudrait que la charité se rajeunisse tout le temps, meure à elle-même et soit de nouveau elle-même. Alors, saint Thomas va répondre. Quelques-uns ont enseigné que la charité n'augmente pas dans son essence, mais seulement dans sa ferveur. Ou dans son enracinement dans le sujet. Ça, c'est assez joli aussi, de voir que l'augmentation de la charité doit être quelque chose d'extrinsèque à la charité, puisque en elle-même, la charité ne peut pas augmenter. Elle est. Et elle est l'amour de Dieu en moi. Donc, au fond, normalement, la charité ne devrait pas augmenter essentiellement. Elle est. Elle est divine. Alors, saint Thomas dit, c'est ignorer le sens des mots de dire ça. La charité est un accident. Son être consiste précisément à exister dans un sujet. Donc, augmenter selon son essence, c'est être davantage dans son sujet. C'est s'y enraciner davantage. Pareillement, la charité est essentiellement une vertu ordonnée à l'acte d'aimer. Par conséquent, ce sera la même chose de dire que la charité augmente dans son essence ou de dire qu'elle a la vertu de produire un acte plus fervent de dilection. Ainsi donc, la charité augmente essentiellement, non pas en ce sens qu'elle commence d'exister ou qu'elle cesse d'exister dans un sujet, comme le voulait l'objection, mais en ce sens que dans le sujet où elle se trouve, elle s'établit de mieux en mieux. Donc, au fond, saint Thomas relève ici que l'augmentation de la charité n'est pas autre chose qu'un enracinement plus profond de la charité. Et je crois que c'est très intéressant de voir ces trois objections que donne saint Thomas, parce qu'elles vont nous permettre de comprendre exactement ce qu'on entend par augmentation de la charité. La charité augmente en étant de plus en plus elle-même. C'est-à-dire, puisqu'elle est enracinée dans la volonté. La charité enveloppe, je vous l'ai dit tout à l'heure. Supprimons le schème d'une charité qui tombe de l'extérieur et qui vient s'enraciner. Vous voyez, l'image de la greffe. Mais comprenons au contraire que la charité étant divine, elle porte ma volonté. Ça, on le sent bien. On sait très bien que c'est grâce à la charité que nous sommes des êtres déterminés et que nous avons une volonté. S'il n'y avait pas de charité, notre pauvre volonté ne serait pas grand-chose. Donc la charité enveloppe notre volonté. Elle enveloppe notre volonté et cependant, elle s'enracine dans la volonté. Elle fait que notre volonté est de plus en plus aimante, que notre volonté est de plus en plus attirée par le Père. puisque par la charité, nous devenons des fils bien-aimés du Père. Agapétos. Alors, nous voyons la triple dimension du développement de la charité. Premièrement, des éclosions. Nous faisons des découvertes extraordinaires. Quand la charité augmente, nous découvrons de plus en plus que le Père est le bien-aimé. Donc nous découvrons ça, c'est des éclosions. Nous, ensuite, ça c'est la première chose, c'est le point de vue de découvrir ces éclosions de la charité. Ensuite, nous comprenons que de plus en plus, la charité, parce qu'elle nous fait toucher la faim, la charité va mettre en nous un repos. La faim est présente. Et de plus en plus, elle s'enracine. C'est l'enracinement. Vous voyez, les éclosions, c'est les découvertes. La charité, dans la mesure où elle augmente, fait que Dieu est présent en nous. C'est la présence. La présence du Père en nous. Et l'enracinement, c'est que de plus en plus, toutes nos capacités d'aimer sont actuées. Toutes les virtualités qui sont en nous d'aimer sont actuées. Vous voyez, c'est la triple manière dont on voit la manière dont la charité augmente en nous. C'est vraiment des éclosions nouvelles, un domaine nouveau. Je découvre de plus en plus ce qu'est le Père. Je suis sous son attraction et je découvre de plus en plus ce qu'est le Père. Il est le bien-aimé. Donc il est de plus en plus présent et de plus en plus, il mobilise toutes mes énergies. Toutes mes énergies sont unifiées. C'est ça l'enracinement de la charité. Je suis de plus en plus un dans cet amour. Oui. Alors qu'au début, je suis dispersé. Je suis dispersé, je vais dans tous les sens. Je louche. Je regarde qu'il y a autre chose. Non, de plus en plus, il y a une unification qui se fait. Alors je crois que là, nous saisissons bien, vous voyez, comment, par la réponse aux trois objections, nous saisissons bien comment la charité porte de plus en plus toutes nos capacités d'aimer vers le Père. Et nous devenons de plus en plus enfants bien-aimés. Des enfants bien-aimés. Il faut s'arrêter maintenant.
Peut-être, oui. Une pause. Une pause de 5 minutes.
Donc une pause.
15 janvier 1983, deuxième conférence.
Oui, je reprends un instant pour bien comprendre, parce que je crois que c'est important de saisir les éclosions. La charité dans son épanouissement, les éclosions. Le point de vue de l'intensité. Alors, c'est de l'ordre de l'exercice. Et l'enracinement. Je crois qu'il y a les trois. Alors, le repos et la présence, j'allais dire, c'est la finalité, n'est-ce pas? Alors, les éclosions, c'est la charité qui augmente en découvrant de plus en plus ce que représente cet amour du Père. L'intensité, c'est notre manière de répondre. Et l'enracinement, c'est Dieu qui demeure de plus en plus présent. Et nous-mêmes en lui. Et c'est là l'enracinement qui fait comprendre comment tout le terrain
de notre volonté est de plus en plus saisi par cet amour du Père. Le Père est de plus en plus présent dans cet enracinement, grâce à cet enracinement. Alors, c'est là où on découvrirait ce que c'est que la ferveur. Qu'est-ce que c'est que la ferveur ? C'est l'exercice le plus intense de la charité. C'est l'exercice le plus intense. C'est lorsque toutes les virtualités qui sont en nous sont mises en exercice. Oui, quand on... J'allais dire, l'attitude, si vous voulez, de quelqu'un qui vit de charité sans être suffisamment attentif. On ne peut pas dire qu'il est fervent. Il est fervent quand tout en nous, toutes nos virtualités d'amour, toute notre intensité d'amour, tout l'enracinement possible d'amour est en acte. Pas de question, on peut y aller. C'est donc le point de vue de l'augmentation de la charité se fait par l'enracinement de la charité en nous. Et ça fait que toutes les virtualités qui sont en nous puissent vraiment se développer et se développer de la manière la plus forte qui soit. Alors on a l'enracinement, l'intensité, les éclosions. Et je crois que c'est les trois choses qu'il faut bien comprendre pour saisir ce que c'est que l'augmentation de la charité. Ce n'est pas la charité elle-même qui augmente. La charité a une possibilité infinie d'augmentation. Et les obstacles viennent de nous. Les limites viennent de nous. La charité est reçue en nous. Et la charité demande de tout prendre, de tout développer. C'est la chose. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est l'intention du... Ah oui, c'est peut-être à la fin. À la fin, très bien. C'est une question de ferveur. Alors, l'article 5, c'est très simple. Une fois qu'on a compris l'article 4, ça n'offre pas beaucoup de difficultés. Je vais simplement le lire avec vous, mais ça n'offre pas beaucoup de difficultés. C'est une question. La charité est-elle augmentée par addition ? C'est bien évident qu'elle n'augmente pas par addition. La charité est une forme simple. Or, ce qui est simple, s'ajoutant à ce qui est simple, ne produit rien de plus, comme le prouve Aristote. La charité n'augmente donc pas par addition. Aristote est donc là pour montrer que la charité n'augmente pas par addition. Vous voyez, c'est beau comme rôle d'Aristote, hein. Alors, le corps de l'article, dans toute addition, une chose s'ajoute à une autre. C'est pourquoi avant l'addition ne s'effectue... Bon, c'est pourquoi avant que l'addition ne s'effectue, les choses additionnées devront être saisies par la pensée comme distinctes. Si donc de la charité s'ajoute, à de la charité, il faut supposer que la charité à ajouter est distincte de la charité qui va recevoir cette addition. Et il faut qu'elle soit distincte, non pas nécessairement dans la réalité, mais tout au moins devant l'esprit. Dieu, en effet, pourrait augmenter une quantité corporelle en lui ajoutant une grandeur inexistante jusque-là. Mais qu'il créerait sur le champ. Cette grandeur, bien qu'elle n'ait pas existé, a du moins en elle-même de quoi être regardée par l'esprit qui la conçoit, comme une quantité susceptible de s'ajouter à la première. Si donc l'on ajoute à la charité, si on ajoute de la charité à la charité, il faut envisager, au moins par la pensée, que ces deux charités soient distinctes l'une de l'autre. Et c'est purement imaginatif, hein, tout ça. C'est pour ça que ce n'est pas très intéressant, parce que c'est imaginatif. Or, c'est évident, si on ajoutait une charité à une autre charité, vous voyez, c'est ça, il faudrait que les charités soient distinctes, forcément. Or, dans les formes, il y a deux sortes de distinctions. La distinction spécifique et la distinction numérique. Dans les habitus, la distinction spécifique se prend de la diversité des objets. la distinction numérique de la diversité des sujets. Il peut donc arriver qu'un habitus augmente par addition parce qu'il s'étend à des objets auxquels il ne s'étendait pas jusqu'alors. Ainsi, la science de la géométrie s'accroît chez celui qui découvre de nouveaux théorèmes géométriques qu'il ignorait jusque-là. Or, on ne peut pas dire cela de la charité, puisque la moindre charité s'étend à tout ce qui doit être aimé dans la charité. On ne peut donc pas concevoir que l'augmentation de la charité se fasse par addition, car ce serait supposer une distinction spécifique entre la charité qui s'ajoute et celle qui reçoit cette addition. Il reste donc que si de la charité s'additionne à la charité, cela ne se peut faire qu'en supposant une distinction numérique, c'est-à-dire une diversité de sujets. C'est ainsi que la blancheur augmente parce que du blanc s'ajoute à du blanc. Quoique, par cette augmentation, une chose ne devienne pas plus blanche. Mais on ne peut pas dire pareille chose dans le cas qui nous occupe, car la charité se trouve dans l'amour raisonnable comme dans son sujet. Et alors, il s'ensuivrait qu'une âme raisonnable s'ajouterait à une autre âme raisonnable, ce qui est impossible. Même si cela était possible, une telle augmentation agrandirait l'être aimant, mais ne ferait pas qu'il aimât davantage. Il suit donc que, d'aucune façon, la croissance de la charité ne peut s'étendre d'une addition de charité à une charité, comme certains le prétendent. La charité augmente donc parce que le sujet qui la reçoit la participe de plus en plus. Vous voyez, c'est bien comprendre l'enracinement. La charité augmente par enracinement. La charité augmente donc parce que le sujet qui la reçoit la participe de plus en plus, c'est-à-dire est davantage incité à produire son acte et plus commandé par elle. C'est là, en effet, le mode de croissance propre à toute forme qui se développe en intensité. Car tout son être consiste en ce qu'il soit inhérent au sujet qui la reçoit. Dès lors, la grandeur d'une chose étant la conséquence de l'être de sa forme, l'accroissement de la forme consiste en ce qu'elle soit plus inhérente au sujet qui la reçoit, et non point parce qu'une autre forme viendra s'ajouter à elle. Cette dernière hypothèse se réaliserait d'ailleurs si une forme, au lieu de n'avoir de grandeur que par rapport à son sujet, en avait par elle-même. Ainsi donc, la charité augmente parce qu'elle s'identifie dans, parce qu'elle s'intensifie dans le sujet qui la possède. C'est sa façon de s'accroître dans son essence même et non pas addition d'elle-même à elle-même. Donc c'est une confirmation de l'article précédent. Ça n'ajoute pas grand-chose. Hein. C'est simplement pour nier que l'augmentation de la charité ne peut pas se faire de l'extérieur. Rien n'est en dehors de l'amour. Vous voyez, c'est un petit peu comme pour l'être. Spéculativement, rien n'est en dehors de l'être. Et donc l'être ne peut pas augmenter par quelque chose qui ne soit pas l'être, qui soit un surêtre. Bien, c'est la même chose ici. Ça, c'est toujours l'imagination. Notre imagination conçoit la croissance comme quelque chose qui vient s'ajouter de l'extérieur et qui, par le fait même, pourrait être autre chose. Or, dans la croissance de l'amour, c'est l'amour qui s'intensifie. Je t'aime plus. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que mon amour est plus intense qu'hier. Mais c'est le même amour, c'est pas un autre amour.
C'est le même amour qui s'intensifie, qui se purifie, qui s'enracine davantage en nous, qui mobilise davantage toutes nos capacités volontaires. C'est toutes nos capacités de volonté qui sont de plus en plus mobilisées par la charité, qui sont de plus en plus saisies par la charité. Mais c'est toujours la même charité spécifiquement. Parce que la charité spécifiquement ne peut pas être autre qu'une autre charité. Donc, vous voyez, l'intensification de la charité, c'est cette mobilisation. Je crois que c'est encore ça qui nous fait le mieux comprendre. C'est l'enracinement, c'est-à-dire la mobilisation de toutes nos virtualités d'aimer, qui sont dans la volonté, qui sont dans la capacité infinie d'aimer. Alors, vous voyez, pour les éclosions, hein, c'est une petite précision qui est intéressante à faire. J'ai dit éclosion. L'éclosion, c'est l'actuation de toutes les virtualités de la charité qui sont en nous. Alors, de ce côté-là, on peut dire qu'il peut y avoir des éclosions nouvelles. C'est plus du côté de la découverte. C'est vrai, nous faisons ces découvertes-là. Nous découvrons subitement ce qu'est le Père. Ce que ça représente. Nous découvrons subitement, si vous voulez, quelque chose que nous n'avions pas encore actué. C'est presque du côté de la connaissance dans l'amour, hein. Au fond, l'amour assume la lumière. Lumière et amour ne font qu'un en Dieu. Lumière et amour ne font qu'un en nous, par la charité. La charité est lumineuse. Et c'est ça que j'appelle les éclosions de la charité. C'est qu'il y a comme une espèce de dans la charité, il y a comme une lumière de plus en plus grande, si vous voulez. Et alors, cette lumière de plus en plus grande dans la charité, qui est toujours à l'intérieur de la foi, il ne faut pas l'oublier, mais qui donne ses éclosions et qui permet à notre contemplation de s'expliciter. Mais ce n'est pas la véritable croissance. La véritable croissance, c'est du côté de l'enracinement. Et c'est ce côté de l'enracinement qui permet une intensification de plus en plus grande. Et donc une ferveur toujours plus grande.
Je passe tout de suite à l'article 6, parce que là, c'est pas la peine de regarder les objections. La charité est-elle augmentée à chaque acte de charité? Alors ça, c'est très intéressant. Et c'est très pratique. Très pratique. Nous tendons tous à aller toujours plus vite. Hein. C'est évident. En toute hâte. Alors, il faut comprendre ce que c'est que cette hâte de l'amour et comment elle peut croître indéfiniment. Cependant, un effet ne dépasse point la puissance de sa cause. Or, quelquefois, un acte de charité est fait avec de la tiédeur et avec ralentissement. Ça n'existe pas à Bethléem, ça, hein. Ça ne peut pas exister, mais ça peut exister en dehors, voyez. Donc, or, quelquefois, un acte de charité est fait avec de la tiédeur. Vous voyez, vous obéissez, hein, en vous regardant, quoi, tout simplement. Il ne saurait donc aboutir à une plus excellente charité. Il dispose plutôt à une charité moindre. L'accroissement spirituel de la charité est semblable, d'une certaine manière, à la croissance corporelle. On vient de montrer que c'est juste inverse. Hein. C'est tout à fait l'analogie. On vient de montrer que c'est juste inverse. Et on reprend l'analogie d'une autre manière. Oui. Pour l'exploiter le plus possible. Pour la secouer dans tous les sens. Parce que la croissance de la charité est totalement différente de la croissance du corporel. Totalement différente. Il n'y a pas de quantité. Et cependant, on reprend. Oui. Ça, c'est... Or, c'est le théologien qui est têtu. N'est-ce pas ? Or, la croissance corporelle chez les animaux et les plantes n'est pas un mouvement continu. De telle sorte que si un accroissement s'effectue dans un laps de temps donné, il est nécessaire que proportionnellement, dans chaque partie de ce temps, l'accroissement se poursuive, comme il arrive dans le mouvement continu. Mais la croissance corporelle s'effectue d'une autre sorte. Pendant un certain temps, la nature travaille à préparer l'accroissement sans faire grandir en acte. Très curieux, ça. Je crois que ça reste vrai. Parce que ça, c'est la constatation de saint Thomas, c'est la constatation d'Aristote. Autrement dit, il y a dans le mystère de la croissance, il y a des hivers. C'est ça que ça veut dire. Il y a des hivers. Il y a un rythme. L'hiver, c'est la phase du recueillement. Rien ne bouge. C'est vrai. Quand il y a un petit bourgeon, ah, ça commence. Ça commence à bouger. Et puis, il y a une phase extraordinaire d'éclosion, de manifestation. Il y a un printemps, il y a un été. Et puis, il y a un hiver de nouveau. Il y a un rythme de vie végétative qui fait, voyez, que la croissance n'est pas continue. Et c'est vrai que la croissance n'est pas continue. Il y a la période de croissance. Je ne dis pas qu'il y a la période de décroissance, mais il y a la période d'hiver, l'hibernage. C'est quand il y a un moment d'arrêt. Et saint Thomas a l'air de dire que, voyez, dans la vie spirituelle, il y a des choses analogues. Il y a des hivers de la vie spirituelle. Et il y a des moments, des éclosions extraordinaires. Il y a des printemps merveilleux. Et puis il y a des hivers. Alors voyez, on est inquiet, parce qu'après un printemps merveilleux, où tout est des éclosions étonnantes, chaque jour on découvrait quelque chose de plus, on était merveilleux, on était la grande joie de la découverte. Puis l'hiver. Il y a quelque chose qui ne va plus. Mais non, c'est tout simplement parce qu'après l'été, il y a l'hiver. Mais quand il s'agit de la réalité physique, on le voit. Quand il s'agit de la réalité spirituelle, vous comprenez, faisons attention. Hein, il ne faut pas faire... C'est une analogie. C'est une analogie. Ce n'est pas du tout de la même façon. Mais il y a quelque chose. Mais alors ça, c'est très très beau. Enfin, pour saint Thomas, si il y a la nature biologique qui nous est donnée comme ça, c'est pour que nous comprenions mieux la nature spirituelle. Le biologique est ordonné au spirituel. Et donc le rite que nous voyons dans le biologique doit nous aider à comprendre le rite qui est donné dans le spirituel. Donc, pendant un certain temps, la nature travaille à préparer l'accroissement, sans faire grandir en acte. Puis ensuite, elle se met à produire l'effet qu'elle avait préparé, faisant grandir en acte l'animal ou la plante. De même, voilà l'analogie, de même, la charité n'augmente point de façon actuelle par n'importe quel acte de charité. Mais chaque acte dispose l'accroissement de la charité. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu chez le vivant. Et rien n'est perdu chez le vivant spirit, le vivant le plus vivant, qui est la vie spirituelle, la vie divine en nous. Et c'est pour ça que chaque acte de charité, si minime qu'il soit, me prépare à l'augmentation de la charité. Par n'importe quel acte de charité. La charité n'augmente point de façon actuelle par n'importe quel acte de charité, mais chaque acte dispose à l'accroissement de la charité. En tant que par un acte de charité, l'homme est rendu plus prompt à agir de nouveau sous l'inspiration de la charité. Puis, la facilité de renouveler cet acte venant à s'accentuer, l'homme s'élance vers un acte d'amour plus fervent qui marque son effort vers le progrès de la charité. C'est alors que celle-ci est réellement accrue en lui. Vous voyez, l'image. Dieu respecte le conditionnement humain. Et le conditionnement humain est ainsi fait que nous ne pouvons pas toujours avoir l'arc tendu. Il y a des moments où l'arc est moins tendu.
Alors, à ce moment-là, l'intensité de la charité fait qu'il n'y a pas augmentation actuelle. Il y a une augmentation virtuelle. On est disposé à, mais on n'est pas entièrement pris. Et certains pas considère que c'est normal, ça. Ça, c'est le conditionnement humain. Alors, évidemment, le Saint-Esprit peut bouleverser tout ça. Hein. Ça, c'est l'acte du Saint-Esprit. Il peut bouleverser tout ça. Et à ce moment-là, on est un peu essoufflé. Hein. Ça, c'est sûr. On est un peu essoufflé parce que l'Esprit-Saint a un rythme qui n'est pas le nôtre. Je crois que c'est facile à comprendre, ça. C'est facile à comprendre une fois qu'on a compris que c'était l'enracinement. L'enracinement se fait d'une façon plus ou moins souterraine. D'une façon plus ou moins visible. Mais il y a une augmentation tout le temps, au moins du côté de la disposition. Il n'y a pas, comme disait, comme on pourrait dire, il y a une diminution, parce qu'on fait un acte de charité qui ne correspond pas au capital de grâce que nous avons, qui ne correspond pas à la mise en œuvre de tout ce que nous avons. Nous pourrions faire plus, c'est vrai, nous pourrions faire plus. Mais à certains moments, Dieu nous demande, vous voyez, cette espèce de rythme. Je ne dis pas au ralenti, c'est pas ça. C'est là, c'est très difficile. Vous voyez, quand je dis on pourrait faire quelque chose de plus, alors si on ne fait pas quelque chose de plus et qu'on pourrait le faire, on devrait le faire. Donc c'est imparfait. Alors si c'est imparfait, comment un acte imparfait peut-il permettre à la charité d'augmenter? C'est très délicat. La question des actes imparfaits. Oui. Alors, est-ce que je suis tenu, au point de vue divin, d'agir toujours avec la plus grande des ferveurs?
Oui.
Et cependant, je n'agis pas tout le temps selon la plus grande des ferveurs. Alors, vous voyez, c'est pour ça que je crois qu'il y a là la question de la conscience. Je ne peux pas agir toujours avec la plus grande des ferveurs. Et cependant, je désire agir selon la plus grande des ferveurs. Je désire que tout le capital d'amour dont je suis capable soit en acte. Quand je fais oraison, c'est ça. L'oraison, c'est pour qu'il y ait des moments où tout le capital d'amour soit mis en œuvre. Et c'est pour ça qu'il y a l'oraison. Autrement, j'aurais pas besoin d'oraison si mon capital d'amour était tout le temps mis en œuvre. Je ferai oraison tout le temps. Mais étant donné le conditionnement humain, il faut qu'il y ait des moments où tout en moi soit mobilisé par la charité. Et je renvoie promener tout le reste. Je renvoie promener toutes les capacités d'activité qui sont en moi et je me mets en oraison. Et je veux me mettre en oraison. Et je veux que tout soit pris dans cette ferveur d'amour. Mais je ne peux pas être tout le temps en oraison. Je ne peux pas l'être tout le temps. Alors, à ces moments-là, tout le capital n'est pas mis en œuvre. Il peut l'être si le Saint-Esprit le veut. C'est ce que Sainte Thérèse appelle, vous voyez, jouer sur les deux claviers. Mais ce n'est pas moi, c'est le Saint-Esprit qui le veut. Moi, je ne peux pas jouer sur les deux claviers. Tandis que le Saint-Esprit peut jouer sur les deux claviers. Le Saint-Esprit peut faire que je fasse telle œuvre matérielle et qu'en même temps, au plus intime de mon âme, il y ait une ferveur unique dans l'ordre de l'amour vis-à-vis du Père. L'Esprit Saint peut faire que je sois attentif à mes frères et qu'en même temps il y a une ferveur d'âme par rapport au Père. Alors je joue sur les deux claviers. Et alors à ce moment-là, il y a une ferveur qui fait qu'il y a une augmentation d'amour. Quoi? Pourquoi? Comment dites-moi?
Je pense à la grâce de Noël de Père.
Oui. Non, c'est pas ça.
On ne peut pas dire qu'à chaque acte, il y avait un peu comme une accumulation, si vous voulez, de grâce, qui d'un coup est arrivée à un certain sommet, et elle a passé à l'acte.
Je crois pas ça. Oui, mais là, c'est encore vous fourrez l'imagination. Mais c'est... Ouais. Vous mettez la continuité. Or, il n'y a pas de continuité. C'est ça que Saint Thomas souligne. Vous voyez, il montre la discontinuité. Et au fond, c'est ça qui est dur pour nous. Vous voyez, si j'étais en continuité, je dirais, mais oui, c'est normal. Ah, c'est pas tout à fait ça. C'est que de fait, moi je crois que saint Thomas souligne, les deux choses ne s'opposent pas du reste, mais ce que saint Thomas souligne, c'est que la charité a en elle-même un rythme divin. Elle est reçue dans notre volonté, et notre volonté est une volonté d'homme. La grâce ne supprime pas la nature, mais la grâce a son rythme propre. Oui. Qui est le rythme de la très sainte Trinité en moi. Donc, la grâce devrait tout brûler instantanément. C'est ça que ça devrait faire. Et on le sent bien. Oui. Or, elle ne brûle pas tout en moi en instant. Pourquoi ? Elle respecte la condition de ma nature. Parce que je suis dans un régime de foi et d'espérance. Et donc, le conditionnement de ma nature reste. Et le conditionnement de ma nature fait que je ne peux pas être toujours dans la très grande intensité. Oui. Je dirais que ça, c'est la pauvreté. Je crois que c'est la pauvreté de l'être humain. Il accepte cette condition humaine. Vous prenez, vous, un cas de lutte. Alors, c'est un peu différent, vous voyez. C'est par rapport à des luttes, des panneaux qui tout d'un coup dégringolent. Alors là, je le vois très bien, vous voyez. Mais ce n'est pas nécessairement des luttes. C'est tout simplement le fait d'aimer. Je devrais, étant donné que la charité qui est en moi, je devrais toujours aimer le Père comme l'agapétos l'aime, comme le bien-aimé l'aime. En Jésus, c'était possible. Et Jésus aimait toujours le Père avec la même intensité d'amour. Il n'y avait pas de croissance. Il n'y avait pas de croissance de charité en Jésus. Et donc, il l'aimait tout le temps avec la plénitude d'amour. Donc, il était l'agapétos. Parce qu'en lui, la charité assumait pleinement et totalement toute la capacité d'aimer. C'est le propre du cœur de Jésus, ça. Ce n'est pas le propre de notre cœur. Parce que nous n'aimons pas toujours, la charité ne prend pas en nous tout le temps toutes les virtualités qu'ils peuvent prendre à cause de notre conditionnement humain. Oui, je crois que c'est beaucoup plus par rapport au conditionnement humain. Vous voyez ? Alors c'est pour ça que je dis par rapport au conditionnement humain, ça explique comment je suis tout le temps dans cet état d'humilité, de pauvreté, parce que je pourrais toujours faire plus. Et c'est vrai, je pourrais toujours faire plus. Et humblement, je dis au Seigneur, mais oui, je reconnais mon conditionnement. Vous voyez ? Plus que le fait de dire, mais oui, c'est normal, parce que là, vous remettez une continuité. Alors que je mets la discontinuité. Je crois que saint Thomas souligne la discontinuité. Vous voyez, l'analogie porte sur la discontinuité. Et montre que de fait, il y a des moments où il y a quelque chose de merveilleux. Et puis, il y a d'autres moments où on doit accepter, j'allais dire, vous voyez, on doit accepter que de fait, mais oui, tout n'est pas... Vous voyez, je crois que c'est plus ça.
Alors, c'est là où on peut dire qu'il y a mission divine. Parce qu'on a pas, il y a eu
voilà. Exactement.
C'est pour ça qu'il n'y a pas d'émission divine tout le temps.
Il n'y a pas de mission divine tout le temps. Il n'y a pas de mission divine. Et c'est pour ça que dans le Christ, il y avait une seule mission divine, parce que c'était tout le temps intense. Il n'y avait pas d'augmentation. Mais la mission divine était parfaite. Vous voyez ? En Marie. Alors, c'est là où il serait intéressant de voir en Marie, la croissance de Marie. Vous voyez ? Parce que la croissance de Marie est parfaite. Et cependant, Elle implique le conditionnement humain. Mais Marie ne nous a rien dit. C'est le théologien qui se penche là-dessus pour voir la croissance de charité en Marie. En Marie, il n'y a jamais eu la moindre imperfection. Et cependant, le conditionnement humain respecté, elle est dans la foi et l'espérance. Alors c'est pour ça que je crois que c'est très... très important de saisir là, c'est très très difficile, de saisir là ce que représente l'imperfection et l'acceptation de notre condition humaine. L'acceptation de notre condition humaine n'est pas une imperfection, c'est d'être dans la vérité. Oui. Et puis, l'imperfection, ce serait justement de faire que notre condition humaine ne serait pas entièrement acceptée. Alors on serait un petit peu dans l'illuminisme, on serait un tout petit peu dans une attitude qui ne serait pas vraie. Accepter notre condition humaine, c'est accepter que nous avons sur la terre encore diverses occupations. Nous avons des occupations diverses. Et dans ces occupations diverses, la charité ne peut pas être toujours aussi à l'aise. La charité est parfaitement à l'aise dans l'oraison. Elle est parfaitement à l'aise dans l'oraison. Alors là, c'est son domaine. Elle peut être parfaitement. Nous savons bien que dans l'oraison, il y a parfois des distractions. Alors là, vous voyez, ça ne devrait pas exister dans l'oraison. Et nous ne les acceptons pas, et nous luttons contre. Tandis que j'accepte pleinement qu'après l'oraison, mais oui, il y a le fait qu'on va prendre son repas. Le fait qu'on sera pris par la charité fraternelle. Le fait qu'on sera pris par le travail. On l'accepte. L'intensité de la charité demeure. Vous voyez, l'intensité de la charité demeure habituellement à ces moments-là, mais elle ne va pas s'intensifier avec autant de force. Et on l'accepte. On accepte son conditionnement humain. Je crois que c'est ça la prudence éclairée par la foi. Et c'est ça la prudence éclairée même par le don de conseil. Vous voyez, qui consiste à regarder que, de fait, notre conditionnement humain est tel que nous ne pouvons pas être tout le temps avec la même intensité. Il me semble que c'est ça que saint Thomas souligne. Oui, ça n'objecte pas du tout votre chose, parce que sainte Thérèse, elle, fait là une constatation par rapport à certaines luttes. Saint Thomas ne fait pas la constatation par rapport à certaines luttes. C'est un cas particulier, ça. Oui. C'est un cas particulier qui illustre, qui est intéressant parce que ça illustre. Mais c'est un cas particulier. C'est un exemple. C'est pas un principe. Vous voyez ? Tandis que saint Thomas, là, nous donne le principe. Il nous montre notre condition humaine par rapport à la charité. Les deux rythmes, je dirais. Le rythme humain et le rythme divin. Le rythme humain demande d'être assumé progressivement. Mais il n'est pas détruit. Jusqu'au bout de notre vie terrestre, nous resterons des hommes qui seront des viators, des viadorales. Donc la foi restera. Et je crois que ça explique cette simplicité des saints. Vous voyez, c'est cette petite parole de Marc qui m'avait tellement frappé, qui montrait ça. Vous savez, cette petite qui lui disait « Oh, mais c'est merveilleux, Marc, vous n'avez plus besoin à manger. » Et là, vous croyez que c'est si merveilleux. Alors là, c'est ça qui est. L'illuminisme, on dirait, mais oui, vous voyez, Dieu m'a fait cette grande grâce, il m'a enlevé ce conditionnement humain. Alors ça serait de l'illuminisme. Tandis qu'elle n'est pas du tout. Mais non. Vous croyez que c'est si merveilleux. C'est extraordinaire. Parce que c'est vrai. Dieu permet ces petites détentes qui permettent de repartir après avec une plus même ardeur, vous voyez. Et l'imaginaire consisterait à dire je voudrais que tout ça. Non, Dieu sanctifie l'homme tel qu'il l'a voulu, dans son conditionnement humain. Avec son conditionnement humain. Charismatiquement, Dieu peut le supprimer. Charismatiquement, c'est Dieu qui le supprime. Mais nous ne le désirons pas. Dieu nous l'impose. Sa charisme. Les charismes, c'est Dieu qui nous impose. Tandis que ce qui est merveilleux, c'est la charité divine qui augmente selon ce rythme et qui laisse notre conditionnement humain. Il me semble, vous voyez, que ça met un réalisme extraordinaire de la charité. Et c'est ce réalisme extraordinaire de la charité qu'il nous a montré là. Réfléchissez-y. Alors,